Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. C'est ma dernière émission enregistrée originale de l'année. C'est un plaisir de la partager avec vous, Philippe Vardon-Rébaud.
Bonjour, merci à vous et merci à nos auditeurs.
Vous êtes bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, notamment pour votre casquette de chroniqueur dans l'émission Ligne droite, une chronique hebdomadaire, je crois.
Chaque mercredi, exactement à ce même micro. Donc voilà, je connais le fauteuil et la place.
Ça va. Vous êtes également conseiller régional, militant local à Nice depuis presque 30 ans.
Oui.
Et puis délégué général du parti Identité et Liberté. On va évoquer toutes ces casquettes, votre parcours et puis votre dernier ouvrage. Je le montre tout de suite à la caméra. Il n'est pas encore trop tard. Chronique d'espérance radiophonique aux éditions ID. Il y a un site internet spécial, j'ai vu, pour acheter le livre.
Oui, c'est pas compliqué. Pas trop tard.fr.
Je pense que c'est accessible à la majorité de nos auditeurs. Vous pouvez bronzer intelligent et militant cet été. Foncez. On va le voir avec Philippe Vardon-Rébaud. Il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser pendant cette heure et demie. Votre livre, évidemment, qui nous sert, mais aussi votre parcours aux confluences du militantisme culturel, du conseil politique, de l'analyse stratégique, et qui vont nous permettre à la fois de prendre, je crois, nos auditeurs par la main, avec un parcours incarné, le vôtre, et en même temps d'aller sur l'analyse plus profonde des grands mouvements qui traversent notre société et notre vie politique. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce projet ?
Je suis là pour, je vous suis.
Je voudrais partir d'une phrase de votre préfacier, qui est notre grand maître à tous, le directeur de la radio, Pierre-Alexandre Bouclet. Il écrit « Aussi longtemps que je me souvienne, je l'ai toujours connu militant ». J'aimerais revenir là-dessus, Philippe Vardon. D'abord, comment vous êtes devenu militant ?
Ça fait quelques années, effectivement. Notre ami Bouclet, on a été un des témoins. On se connaît effectivement de plus longtemps, là aussi, sous différentes casquettes. Comment je suis devenu... pour définir le militantisme, il y a deux phrases qui me viennent. Hein. Je vais essayer de pas cumuler les citations, mais il y en a une de Monterland, qui, je pense, définit assez bien l'idée, qui est « Transformer le monde afin de pouvoir tolérer y vivre, tel est l'instinct moteur. » Transformer le monde afin de pouvoir tolérer y vivre, tel est l'instinct moteur. Je crois que c'est un peu... Le militantisme, le goût de l'action est aussi quelque part une disposition de caractère, une disposition d'esprit, une première, une deuxième, un peu plus pop culture si vous me permettez, même si c'est une œuvre très importante, c'est une citation issue de l'œuvre de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, et c'est une citation du magicien Gandalf, avec sa grande barbe blanche, son bâton, un personnage
tout
central,
monde situer, tout
un
monde
personnage central de l'œuvre de Tolkien. Et Gandalf dit « Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti. » Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti, du temps qui nous est imparti à la surface de ce monde, à nous de décider ce qu'on va en faire. Et je dirais que ces deux phrases se complètent assez bien, et que oui, le militantisme, c'est... voilà, au commencement était l'action, disait aussi Goethe, il faut essayer de faire en sorte que ce monde soit plus acceptable, que ce monde soit plus acceptable pour qu'on y vive, et puis la vie suivant son chemin pour que nos enfants y vivent, et puis derrière eux, leurs enfants, je dirais que c'est ça, l'instinct moteur, pour reprendre la formule de Monterland, pour vous répondre un peu plus... concrètement, moi j'ai commencé à militer, c'est vrai, il y a plus de 30 ans en réalité maintenant.
Je vais pas citer la date du
mais non mais ça fera bientôt 31 années, donc à l'adolescence. Ma première prise de conscience a été une prise de conscience identitaire au sens, j'allais dire premier, mais presque primal du terme, c'est le sentiment connu par beaucoup, beaucoup de Français, de se sentir un peu étranger chez soi. Moi, la séparation de mes parents, on est parti habiter en cité, dans le quartier des Moulins, à Nice.
Alors, dites-nous deux choses sur le quartier des Moulins.
Le quartier des Moulins, qui est un peu plus connu maintenant que quand j'y habitais, il n'est pas connu à travers moi, mais il est connu désormais pour ses narcotrafiquants, puisque c'est un quartier... il y a encore deux semaines de ça, on a eu des affrontements à la fin des tirs de Kalachnikov, etc., qui est devenu, voilà, c'est une des deux cités. Il y a la cité de l'Ouest, les Moulins, la cité de l'Est, l'Ariane. Alors, j'ai fait ma première année de maternelle à l'Ariane, vous voyez, je peux faire le tour opérateur des cités niçoises si jamais vous voulez venir visiter, Charles.
Il y a d'autres choses dans la ville qui
m'attirent. Il y a pas mal de choses à Nice un peu plus sympathiques à visiter, c'est vrai, mais c'est un quartier, voilà, ça fait partie de ma construction aussi. C'est un quartier qui était déjà un quartier avec, évidemment, évidemment une très forte population immigrée, mais sans commune mesure avec ce que c'est aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs, j'allais dire marrant, pas du tout marrant en fait, c'est qu'on a entre-temps déversé des millions d'euros d'argent public dans le cadre de la politique de la ville pour refaire les bâtiments, pour y installer des équipements qui n'existaient pas du tout quand j'étais gamin là-bas, et que la situation a empiré. Moi, quand j'étais gamin, l'islam était quelque chose d'assez diffus. Il y avait des musulmans, beaucoup. Mais très sincèrement, j'entendais parler du Ramadan quand les voisins venaient taper pour vous faire partager des makroubes et des dattes. Aujourd'hui, c'est un imam proche des frères musulmans qui a reçu un Ramadan, etc., etc., qui a la main sur l'islam dans le quartier. Le trafic de drogue existait déjà, bien sûr aussi, mais c'était les petits dealers plutôt du quartier. Aujourd'hui, on a des affrontements incroyables, puisqu'on a des affrontements entre les racailles du quartier contre les dealers. Et par exemple, vous avez en fait aujourd'hui, c'est plutôt les milieux marseillais, hein, dont on entend beaucoup parler, qu'ont pris pied sur le quartier, et ils installent des dealers, j'allais dire étrangers, je sais pas comment dire, triplement étrangers, puis ce sont des clandestins en fait, et qui sont donc étrangers, oui, sont des clandestins tunisiens, présents illégalement en plus, mais qui sont aussi amenés d'ailleurs. Et ce qui crée une vraie différence, puisque pourquoi vous installez en fait ces clandestins tunisiens-là ? Parce qu'il n'y a plus de connexion, en fait, avec les gens du quartier. Et là où, quand les petits dealers qui traînaient en bas des immeubles avant, on pouvait aller chercher leurs parents ou leurs grands frères, etc., là, vous êtes face à l'altérité suprême, en fait. Et ce qui m'a valu, d'ailleurs, d'être applaudi par lors d'une visite du quartier, quand j'étais encore chef de l'opposition municipale sous le mandat précédent face à Christian Estrosi, d'être applaudi par une assemblée, très variée, oui, et notamment beaucoup de femmes voilées, de mères voilées, etc., en disant les dealers, pour ceux qui sont français, c'est en prison, et pour ceux qui sont clandestins, c'est dans l'avion. Et là, vous avez tout le monde applaudit, en réalité. Il y a ce changement-là. J'ai évidemment digressé, mais voilà, c'est cette prise de conscience de l'altérité, le sentiment d'être étranger chez soi, du côté de ma mère, une famille de rapatriés, du côté de mon père, une famille très enracinée dans le pays niçois, c'est-à-dire les deux noms, tout le monde, enfin, les gens me connaissent en général plutôt sous le nom de Philippe Vardon, mais mon nom complet c'est Vardon Rebaud, et c'est vrai que quand j'écris, j'ai cette petite petite habitude que j'ai prise avec mon premier livre en 2011, de rendre hommage aux deux noms au moins de cette façon-là. Et la famille Rebaud, c'est une très très vieille famille niçoise présente à l'armorial du comté de Nice. Donc voilà, j'ai ces deux héritages, et il a fallu finalement, mais je crois comme beaucoup de Français, que je connaisse cette altérité pour aller chercher cela. Et c'est finalement à l'adolescence où je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je sais qu'on est on est chez nous. Mon père, mon grand-père, moi j'ai un grand-père qui me disait Le Petit Prince en niçois. On m'a raconté cette histoire-là. Je sais que j'ai un ancêtre, alors il faudra que j'aille chercher là aussi ensuite, mais qui est un héros de la Première Guerre mondiale, qui est au Monument aux Morts à Nice. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi on est traité comme ça ? Une dimension sociale aussi, qui vient se doubler à ça, d'injustice sociale. Moi, ma mère a beaucoup trimé pour nous élever correctement, pour nous éloigner le plus possible de la cité. Ça a été le scoutisme. Ça a été...
Vous rendez hommage au scoutisme dans ce cadre-là.
Beaucoup, parce que je dois, on va peut-être en reparler, mais je dois beaucoup au scoutisme dans celui que je suis, au scoutisme comme école, au scoutisme à travers les gens que j'ai pu y rencontrer. Mes parents étaient séparés, donc je vais pas faire la mauvaise psychologie, mais il fallait aussi des figures masculines, et j'en ai trouvé dans le scoutisme avec beaucoup de chance, parce que je pense que mon tempérament aurait sans doute pu faire, si ma mère avait pas eu la bonne idée d'aller me sortir un peu du béton pour m'envoyer dans la forêt, que les choses peut-être auraient plus mal tourné, c'est cette rencontre avec l'altérité qui crée l'étincelle. Et après, c'est un chemin de 30 ans qui est pas terminé d'ailleurs, hein, en fait, avec des balbutiements, parfois des chemins, on se dit peut-être faire de demi-tour, sans doute des maladresses et parfois même des erreurs, mais un chemin militant qui se construit en fait en même temps que je me suis construit. C'est la réalité aussi, c'est-à-dire que La politique et le militantisme sont entrés dans ma vie à un moment où j'étais pas fini, pour le dire très simplement.
En tout cas, vous étiez en construction.
Voilà, c'était pas. et donc j'ai grandi avec ça. Et donc mon engagement a aussi pris les formes que. Et évidemment, j'utilise souvent cette formule, mais j'ai 45 ans aujourd'hui. Je suis évidemment pas le même militant à 45 qu'à 35.
Et c'est la question que j'allais vous poser. 30 ans de militantisme. Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement du militantisme? Vous pourriez dire. J'ai fait mon temps dans le militantisme et finalement j'ai collé, j'ai crié, j'ai scandé, je me suis mobilisé, j'ai pris des coups, j'ai fait ma part. Et ouais, maintenant je peux rentrer dans une dimension de gestion, de conseil. Et on sent que dans votre ouvrage, il y a à la fois une volonté de continuer à militer, d'ailleurs vous venez de nous en parler, et de rendre hommage à ceux qui continuent à considérer que le militantisme a encore du sens en 2026 en France.
Il y a plusieurs questions. Et c'est celle du moment où, comme disent les boxeurs, on raccroche les gants. Alors il faut savoir aussi raccrocher les gants. Je vis un peu avec cette idée-là de me dire à quel moment il faut savoir. J'ai la chance, en fait, c'est 30 ans de militantisme, c'est pas 30 ans de militantisme linéaire. Pour le dire avec des mots feutrés, j'ai connu le militantisme de rue, j'ai connu le syndicalisme étudiant, j'ai été un des fondateurs des identitaires en essayant d'apporter... À l'époque, on parlait de révolution culturelle pour le militantisme de la droite de terrain, de la droite de l'action. Je dirais aujourd'hui plutôt une réforme, en réalité, si j'analyse avec le temps, mais une réforme des modes d'action, une réforme intellectuelle, une réforme idéologique, quasiment une réforme morale aussi, parce qu'avec les identitaires, on essayait beaucoup de jouer sur l'état d'esprit. Avec, par exemple, une simple idée, c'est pas nous les méchants. Et donc on ne se complaît pas dans le rôle du méchant. Et on avait développé plein de formules comme ça, voilà, en disant on veut bien faire peur à nos ennemis, mais pas à nos grands-mères. C'est pas si évident pour des militants de droite radicale. On se complaît parfois dans ce rôle du méchant qui nous est renvoyé. J'ai connu ça moi un peu à l'adolescence. En plus c'est très attirant. C'est très attirant. C'est le bad boy, voilà, celui qui fait un peu peur. Alors, ça y a toujours un côté un peu exaltant. Mais on a voulu s'extirper de ça. Et puis surtout ce que j'ai voulu, je pense qu'un des le fil rouge peut-être de mon engagement, c'est aussi toujours un attachement à la transmission, et je me suis toujours dit justement parce que j'ai connu le militantisme très jeune, que j'ai pas toujours trouvé les bons guides quand j'étais très jeune. Je me suis dit voilà, il y a des erreurs que j'ai faites. Un de mes rôles, c'est normalement, c'est d'essayer de faire que d'autres les fassent pas. Je pense avoir réussi dans une certaine mesure, parce qu'on peut on peut pas tout faire, on peut pas décider pour les autres. Mais ça a été une des idées constantes avec les identitaires. On disait aussi, pour illustrer cet état d'esprit, on disait aussi, on est toujours en première ligne, jamais dans le dernier carré. Et c'est pas si évident. Il y a pas que dans la droite radicale, d'ailleurs dans la droite au sens large, une petite tentation du dernier carré, et pas juste la défaite glorieuse, mais même à s'en satisfaire. On a tellement raison que tout le monde nous déteste. On a tellement raison qu'on est seul. Et donc on a toujours combattu ça. Donc c'était une réforme, et puis bien sûr un engagement qui s'est aussi illustré à travers l'engagement sur le terrain électoral. J'avais dit je suis conseiller régional, j'ai été élu pour la première fois aux côtés de Marion Maréchal en 2015. Une épopée électorale incroyable, hein, si certains de nos auditeurs s'en rappellent. En 2015, on fait 16 points d'avance au premier tour. C'est la première fois que la gauche va se retirer au profit de Christian Estrosi à l'époque.
Ouais, c'est une tempête médiatique, cette campagne.
Et c'était, Marion a été une espèce de fusée qui a traversé ça. Je crois qu'on prend 20 points dans les sondages. De mémoire, c'est 41 au premier tour, peut-être même 42.
42, je crois.
Voilà, donc quelque chose d'assez incroyable. C'est ma première campagne électorale à ce niveau-là. J'ai été candidat identitaire à Nice. Nice a une identité politique très particulière. C'est la grande ville la plus à droite
de
France.
On va y revenir.
Et donc voilà, ce militantisme. Ensuite, au sein du FN, puis RN, aux côtés de Marine Le Pen dans la campagne présidentielle 2017, aux côtés de Jordan Bardella pour les européennes de 2019. Donc j'ai la chance d'avoir un militantisme qui a pris plein de formes. Beaucoup de combats culturels aussi, vous l'avez évoqué, que j'essaie de poursuivre modestement à ce micro chaque semaine. Voilà, la création de maisons de quartier, plein de choses aussi dans ce que je définirais aujourd'hui comme de l'infra-politique, c'est-à-dire un peu le ce qui sous-tend l'action politique, parce que dans un groupe militant, il y a les différents niveaux, on a tendance à dire politique, métapolitique, voilà, les mots se sont imposés, mais il y a aussi une dimension infra-politique, une dimension communautaire, et c'est aussi ce que j'essaye de traduire d'ailleurs à travers les chroniques, ou certaines d'entre elles du moins, c'est qu'il y a un ciment culturel en réalité qui nous lie, qui sont des chants, qui sont des mots, qui sont des images, des films parfois, et j'essaye de traduire tout ça, et non, je vais pas encore accrocher les gants de suite, vous l'avez compris, il y a encore un tout petit peu de passion qui m'anime.
J'ai l'impression que ça dure. Alors, on a traversé un peu Nice déjà dans les réponses, mais c'est une ville qui vous habite. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle vous marque autant, cette ville?
Ah, parce que c'est chez moi. C'est chez les miens. Votre formule est très belle. C'est une ville qui m'habite plus que je ne l'habite. C'est vraiment chez moi et je me prends à faire des choses. Pour ceux qui sont jamais venus à Nice, prenez l'avion. Ça fera pas plaisir aux écolos, mais vous aurez la chance de voir ce que c'est l'atterrissage, parce qu'on a l'aéroport qui est au bord de la mer. C'est un des plus beaux atterrissages qu'on peut avoir, à mon avis, à la surface de la planète. Voilà, ça sera pour la page Office du Tourisme. Venez pas non plus trop nombreux. On a déjà tout ce qu'il faut, et surtout n'achetez pas d'appartement. Voilà, ça coûte déjà beaucoup Niçois, trop cher. Laissez les derniers Indiens niçois pouvoir rester dans leur ville. Non, c'est une ville incroyable. Et voilà, quand je rentre, que je retrouve la promenade des Anglais, l'air marin, voilà, tout c'est réellement chez moi, c'est chez moi, vous l'avez compris, de manière filiale. Et oui, et c'est une ville qui est incroyable dans son caractère, dans son histoire. On est des Français récents, donc on a une histoire qui est très chamboulée. La Provence, on l'oublie, parce que les Niçois sont tellement, on veut pas le dire, mais la Provence d'abord, puis la dédition à la Savoie, tout ce parcours avec la famille de Savoie à travers ces différentes, là aussi, pérégrinations, terre d'empire, ce qui fait que nous, on était à la bataille de Lépante, par exemple, contrairement aux Français, puisque les galères de Savoie présentes à la bataille de Lépante étaient dirigées par un Niçois, donc... voilà, il y a une histoire politique quand vous avez eu des maires comme Jean et Jacques Médecin.
J'allais vous dire, ouais, c'est quoi cette particularité politique dont vous nous avez parlé déjà ?
Il y a une identité politique. Il y a une identité politique qui, je dirais, si je devais définir, qui est en réalité une identité très union des droites ou coalition des droites. Vous avez donc la dynastie, les deux maires qui sont succédés, Jean Médecin et Jacques Médecin, son fils Jacques Médecin, qui disait partager. Je vous de mémoire 99% des idées du Front National à l'époque, qui avait autour de lui des gens issus du Club de l'Horloge, des gens issus du Grèce, qui a toujours fait preuve de beaucoup de courage politique, qui a embrassé cette identité. Le maire qui a précédé Christian Estrosi, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié, d'affection, mais aussi d'estime politique, était Jacques Perra. Jacques Perra, qui est un compagnon d'armes de Jean-Marie Le Pen, que ce soit dans le Quartier Latin pour faire le coup de poing contre les gauchistes, ou en Indochine, qui va être parmi les fondateurs du Front National, parmi les députés élus à l'époque à la proportionnelle. Alors, ils vont se fâcher, comme ça arrive parfois, mais parce que Jacques Perra, en fait, veut conduire une liste de larges rassemblements pour aller conquérir la ville après le départ de Jacques Médecin, et il va gagner en 95. Moi, je me souviens, j'étais donc tout jeune, très sincèrement, avec pas mal de désintérêt pour la politique électorale à l'époque, et je m'intéressais à d'autres choses, un autre monde, un autre univers, mais je me souviens d'une couverture de Charlie Hebdo qui dit d'ailleurs, à l'époque, c'est l'époque où il y a Toulon, Marignane, Vitrolles, Orange qui sont conquises par le FN, et qui met Nice aussi, parce que Jacques Perra, et ça a été, alors ensuite il s'est rapproché du Parti Républicain, puis de l'UMP, etc. Il a été sénateur-maire pendant deux mandats. Ça a été un maire absolument exceptionnel qui a été poignardé dans le dos par Christian Estrosi en 2007-2008. Mais les dernières élections ont aussi apporté un témoignage à travers l'élection d'Éric Ciotti. Je me suis amusé parfois de voir une lecture. Ça a été une victoire, une défaite assez large de Christian Estrosi, une victoire assez large d'Éric Ciotti. Mais c'est vrai qu'il y a eu une lecture parfois un petit peu déconnectée dans certains médias centraux parisiens, en disant qu'est-ce qui s'est passé, comme si c'était Bordeaux qui avait basculé vers le camp national. Non, c'est Nice, et je dirais que c'est plutôt un retour à la normale en réalité, ce qui enlève rien encore une fois à la victoire nette d'Éric Ciotti, mais c'est un retour à la normale, à l'identité politique de cette ville. Là où Christian Estrosi, surtout en plus Christian Estrosi est élu très à droite en réalité en 2008, et quand il monte face à Jacques Perra, il dit pas je suis la gauche qui va défier l'ancien du FN Pen, etc. Et puis il va dériver vers le centre, je crois le centre-gauche petit à petit, notamment aussi à travers l'affrontement avec Marion, parce qu'il sait pas comment s'en sortir. Il a 16 points de retard au premier tour, donc il va sortir la carte centriste, voire encore une fois centre-gauche, pour que la gauche se retire, et puis il va engager Samu, qui va l'amener ensuite chez Macron, etc. C'est en fait peut-être à cause de Marion, tout ça encore. Donc voilà, on est revenu à ce qu'est l'identité politique de cette ville. Il y a une identité locale très forte. Voilà, on a un beau travail qui a été fait sous là aussi, les plaques bilingues dans les rues de la vieille ville, enfin voilà, là faudrait refaire une émission. Mais je pense que je ferai un livre un jour là-dessus sur Nice. On connaît c'est Nice la Belle, mais c'est aussi Nice la Rebelle, avec un caractère vraiment un caractère particulier, et avec en plus des apports les Corses, les Piémontais, les Pieds Noirs. Médecin accueille les Pieds Noirs. On a vraiment à l'époque Defer, le maire de Marseille, dit qu'ils aillent se réadapter ailleurs, une formule dont certains de nos auditeurs se souviendront, et au contraire Médecin accueille les Pieds Noirs. Médecin est à l'époque anti-gaulliste, partisan de l'Algérie française, et donc ça va être ça va venir s'ajouter encore à cette identité politique de la ville. Et donc aussi, c'est vrai, une histoire. Moi, j'ai connu tout gamin des bars dans Nice où il y avait le portrait de Jean-Marie Le Pen. Voilà, il y a eu très très tôt. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen s'est présenté aux législatives à Nice. Il y a eu une identité politique très ancienne, très affirmée, dans laquelle je me sens assez à l'aise. Ouais.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Philippe Vardon-Rébaud qui publie « Il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard », chronique d'espérance radiophonique aux éditions Idées, et qu'on peut se procurer sur pastroptard.fr. On va faire une pause musicale dans 2-3 minutes, mais vous avez cité un nom, elle revient régulièrement dans vos chroniques, il s'agit de Marion Maréchal. On va y parler, vous êtes délégué général de son mouvement, un de ses plus proches, sinon son plus proche conseiller. Comment vous avez rencontré Marion ? Est-ce quel souvenir vous pouvez partager aux auditeurs de Radio Courtoisie sur votre rencontre avec Marion ?
Alors, la première fois qu'on se rencontre, c'est en Suède.
original.
absolument par hasard. Alors, ma proximité, je crois pouvoir dire mon amitié avec Marion, c'est avant tout, enfin, c'est d'abord, plutôt, disons dans le sens chronologique, une amitié politique. Et une proximité politique. Et je rencontre, en fait, c'est absolument à la sortie de mon premier ouvrage, qui était Éléments pour une contre-culture identitaire, donc un abécédaire contre-culturel en 2011 de mémoire. Je fais une tournée, et notamment une tournée européenne. Et je suis invité en Suède, où j'interviens en mauvais anglais pour présenter un livre en français. Donc c'est pas les ventes qui ont dopé tout ça, mais c'était évidemment très sympa, très valorisant. Et il se trouve que Marion, à l'époque, il y avait un mouvement, un intermouvement européen de jeunesse qui avait été à l'époque monté par un certain Julien Rochdy, que vos auditeurs connaissent peut-être un petit peu aussi. Julien Rochdy était à l'époque directeur du Front National de la Jeunesse, et il avait fait comme ça une alliance européenne des mouvements de jeunesse, et Marion avait été invitée, elle, à intervenir, et en fait on se faisait concurrence ce soir-là, mais ça n'a pas empêché, par le truchement, voilà, de certaines connaissances, qu'on se retrouve finalement dans un pub, on échange quelques mots. Voilà, ma première rencontre, c'est celle-là. Et ensuite, ça va être une rencontre politique autour des régionales de 2015 que j'évoquais tout à l'heure. Là aussi, en vrai, moi, je sortais de municipal où j'avais fait ce qui était plutôt un bon résultat pour un candidat identitaire. Mais enfin, c'est les bons. Moi, j'aime pas collectionner les trophées d'estime, quoi. Et j'avais à ce moment-là le projet de lancer un journal, en fait, sur Nice, un journal gratuit pour prendre pied en me disant un peu sur le terrain électoral, c'est bouché. J'arrivais pas à trouver le chemin d'un accord, d'une entente, d'un travail en commun. Avec le FN à l'époque, et puis les régionales se profilent. Moi, je suis tout à ce projet-là, totalement déconnecté. Marion Maréchal est désignée, Christian Estrosi est désigné en face. Et là, évidemment, mon intérêt vient de reconnecter. Je dois le dire, pas tant sur la candidature de Marion, mais sur celle de Christian Estrosi. Je me dis, c'est pas possible. Voilà, je connais le.
Vous connaissez.
Je connais bien. Je l'avais à l'époque déjà fait condamner une première fois pour le loyer sous-évalué d'une mosquée islamiste. Et je dis, tiens, observons ce qui se passe. Et il se trouve que par le biais d'un ami commun, on est connecté, on se rencontre. Je fais quelques premières notes, un petit peu de positionnement, des éléments sur Estrosi, sur la politique qu'il mène, sur ce que je considère être des angles d'attaque possibles. On échange une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour Marion me dit, Philippe, tu vas monter avec nous dans l'équipe. Ah bon, j'avais pas prévu, mais ok, super, dans l'équipe de campagne, génial, ouais, c'est super intéressant. Non, tu vas monter avec nous dans l'équipe, tu vas monter sur la liste. absolument pas prévu, pas envisagé. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça, et on a vécu une aventure incroyable qui était une aventure de bande. En fait, on était toujours là, tous dans la même.
Vous étiez pas très nombreux.
On était tous dans la même voiture à faire des kilomètres entre Avignon, Nice, monter dans les Alpes. C'est une région où il faut faire en fait des bonnes distances.
De Provence, c'est pas.
Il faut y aller exactement. Et puis là, ben. On est en voiture et on discute. Et moi, je me souviens, voilà, avoir des discussions déjà hyper profondes avec Marion. On parlait déjà d'écologie conservatrice. On parlait de sujets où moi, j'avais un peu l'impression d'être tout seul avec quelques camarades à les embrasser, à aller les chercher. Et puis, je rencontrais voilà quelqu'un qui avait des références, qui avait de la profondeur et qui avait de la profondeur dans tous les sens du terme. Parce que j'ai vu aussi dans cette campagne, d'abord la solidité, un sens de la camaraderie, de la fidélité qui est aiguë. C'est pas pour rien, je suis encore 10 ans plus tard à ses côtés, mais quand j'ai été attaqué violemment par Christian Estrosi dans les médias pour mon parcours, voilà, et une Marion qui faisait face et qui retournait la balle avec virulence, et puis aussi elle m'en voudra peut-être de le dire, mais avec une profondeur intérieure, voilà. Pour l'anecdote, on est dans la vieille ville, on est entre, vous savez ce qu'on fait en campagne, vous connaissez peut-être un peu ça, Charles, l'apéro à 17h avec des gens des professions libérales, et puis à 19h on rencontre des restaurateurs, et on est dans la vieille ville, on a un petit laps de temps, et Marion me dit, est-ce que tu penses qu'il y a une église ouverte ? Vous êtes dans le Vieux-Nice, ça manque pas d'église, et heureusement il y en a encore qui sont ouvertes, oui, on doit pouvoir trouver ça. Et voilà, Marion partie, s'asseyant au fond d'une église, toute seule, pendant 10 minutes. Je sais pas à qui elle a parlé, j'ai une petite idée. Je sais pas ce qu'elle avait à demander, confier. Ou à aller chercher, ou à confier, exactement. Et voilà, ça témoigne, et encore une fois, ne serait-ce que même si je me disais qu'elle était juste allée chercher le silence et la pause que nos églises veulent bien nous offrir aussi comme asile, surtout dans des campagnes électorales. Voilà, c'est des moments comme ça. J'en ai connu quelques autres lors des dernières élections européennes où, improvisé, on est toute l'équipe de campagne, elle improvise dans une toute petite église en Sologne, une petite prière dont le sens c'était pas du tout donnez-nous la victoire, mais c'était donnez-nous de ne pas nous dans cette campagne, de ne pas nous trahir et surtout de conserver la camaraderie qui nous unit. C'est pas mal.
On va continuer cette discussion avec Philippe Vardon-Rébaud. On retrouve son livre « Il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard » après une première pause musicale proposée par Benoît. Vous êtes de retour dans le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Philippe Vardon-Rébaud qui publie « Il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard. Chronique d'espérance radiophonique aux éditions Idées » qu'on peut se procurer sur pas trop tard.fr.
Et oui, Amazon, librairie Ami, voilà.
Alors, on a parlé d'une de vos créations, une des choses pour lesquelles vous êtes particulièrement connu, Philippe Bardon-Rébaud, c'est la création des identitaires. D'abord, pourquoi vous n'avez toujours pas fait l'histoire des identitaires ou le bouquin sur la création des identitaires, Philippe ?
Oui, il faudrait peut-être parce que non mais vous avez raison. D'une certaine manière, quand c'est pas vous qui racontez votre histoire, d'autres le font. Street Press, je crois, sort un ouvrage sur le
sujet.
Puis vous
êtes subventionné pour le sujet.
Et c'est vrai que oui, il y a sans doute quelque chose à raconter parce qu'en réalité, les identitaires, c'est 2002. La création, donc à l'époque, il y a les identitaires comme association. Pivot culturel, les jeunes identitaires et plus tard le bloc identitaire comme structure de adulte, disait-on à l'époque, parce que une des spécificités des identitaires, ça a toujours été que nous on voulait que la jeunesse commande à la jeunesse, et c'est la jeunesse qui a été le fer de lance en réalité pendant 20 ans. Avec une forte autonomie et qui a toujours été revendiquée et mise à bon profit. Et c'est vrai que de 2002 à la dissolution de Génération Identitaire par Darmanin qui est à tout égard, hein, je pense l'un
c'est pas
des
votre
pires...
homme politique favori.
Non, c'est ça. Quand je suis interrogé en sondage, là, vous savez, sur les baromètres de popularité, non, c'est compliqué. Non, je pense que c'est un des peut-être le pire, hein, ministre de l'Intérieur qu'on ait eu, parce que c'est celui d'abord qui a les records d'immigration et les records d'insécurité, hein, et puis c'est celui, je dirais, si je vais prendre deux gestes symboliques, c'est celui qui a dissous Génération Identitaire pour ses actions, on s'en souvient, dans les Alpes, hein, c'est terminé avec des hélicoptères, les actions sur le bateau aussi en Méditerranée, enfin voilà, des actions spectaculaires pour attirer l'attention des Français sur le refus de l'immigration massive, c'est pour ça que ça a trouvé un écho aussi favorable aussi dans l'opinion. Donc il va dissoudre Génération Identitaire, et c'est aussi celui, faut pas l'oublier, qui c'est le 11 novembre 2022 de mémoire, va accueillir l'Ocean Viking. Je sais plus si c'est l'Aquarius ou l'Ocean Viking. Il me semble que c'est l'Ocean Viking qui portait mal son nom, puisque c'était pas un bateau qui transportait des Scandinaves, mais qui transportait, c'est un bateau d'SOS Méditerranée, qui transportait des migrants récupérés en Méditerranée. Giorgia Meloni, à l'époque, refuse que ce bateau aborde en Italie. Et puis, Gérald Darmanin va l'accueillir à Toulon. Et donc, je dirais que si on prend ces deux gestes, hein, extrêmement symboliques, ça trace quand même le personnage qui a eu la main très lourde sur les dissolutions, et je lui en veux énormément pour la dissolution de Génération Identitaire, parce que je pense que le rôle de la politique, de l'engagement politique, c'est aussi d'offrir des débouchés à la colère qui peut nous animer, parfois à la rage, et notamment à la colère de la jeunesse. Et la colère de la jeunesse, elle est bien légitime face à ce que vivent aujourd'hui les jeunes Français, et moi, bon, on en parlera peut-être, mais à la lecture du livre de François Bousquet, de sa première enquête sur le racisme anti-blanc, et encore plus là de Sale Blanc, qui est surtout un recueil de témoignages avec bien sûr beaucoup d'analyses, j'ai été frappé de me dire à moi-même, et pourtant, bah, sur le sujet du racisme anti-blanc, avec les identitaires, on a été les premiers à mettre ce sujet-là sur dans le terrain politique et militant en 2007 déjà, qui est quasiment 20 ans, mais même moi, j'ai été frappé en me disant, mais j'ai pas conscience, en fait, j'ai pas conscience parce que je vieillis, etc., et ça m'a amené d'ailleurs à discuter un peu avec mes fils, j'ai pas conscience, et le racisme systémique, il existe en fait dans ce pays, mais il existe pour les petits blancs qui se font massacrer. L'actu nous l'a encore démontré, mais enfin c'est sans cesse, en fait, combien il y a de gamins qui se font massacrer dans les cours de récré. Alors, c'est pas toujours exprimé, on dit pas toujours sale blanc, sale français, etc., mais la victime qui est vue, le petit blanc, il est vu comme une victime, comme un bolos, comme un bourgeois, comme celui qui a pas de frères pour l'aider, que ce soit des frères de peuple ou des frères la fratrie, comme celui qui est seul. C'était une chanson de Vévictis à l'époque du groupe de rock identitaire Vévictis qui disait « Trop seul, trop pâle, trop seul pour qu'on te craigne, trop pâle pour qu'on te plaigne. » Et combien de petits blancs, et moi petit blanc pour moi c'est plutôt, c'est un titre de fierté, hein, qu'une insulte, sont voilà, au moment où on se parle dans des cours d'école, d'école primaire, de collège, dans les quartiers, bah, en train de se faire, comme disent les racailles, bolosser. Et c'est vrai que je pense qu'il faut que la politique vienne en fait donner une explication du monde, donner un orienter. Il y a un slogan anarchiste que j'aime beaucoup. beaucoup. Vous m'en voudrez pas de le citer à votre antenne.
J'avais des citations trotskistes dans le livre.
J'avoue. Mais j'essaie de prendre les références partout où on peut, voilà, d'opérer aussi du judo politique et d'aller chercher tout ce qu'on peut saisir chez l'adversaire et s'en emparer. Mais les anarchistes, c'est un autocollant qui m'a beaucoup frappé dans ma jeunesse, qui disait: politise tes inquiétudes, tu inquiéteras les politiciens. Et je pense qu'une de nos missions, comme cadre politique, mais en particulier vers la jeunesse, c'est justement de venir embrasser cette colère, quoi, lui donner du sens. Dominique Vénère disait, en parlant de sa jeunesse militante pour l'Algérie française, il disait: on avait les idées courtes, mais les instincts profonds. Et voilà, à nous de venir aussi rallonger les idées, d'expliquer les choses, pourquoi on en est là. Et génération identitaire, qui est, à mon avis, ce qui a existé de génération identitaire, c'est donc 2012-2023, je pense, la dissolution, je crois pas me tromper. C'est ce qui a existé, c'est la version la plus aboutie du militantisme identitaire, c'est-à-dire un mode d'action qu'on a élaboré à partir de 2002, mais enfin, il y a des prototypes, quoi. Vous arrivez pas, voilà, il faut travailler, il faut élaborer les choses, mais on arrive à un mode d'action impeccable avec des jeunes qui ont été formés uniquement à l'école identitaire, c'est-à-dire aussi qui ne portent pas un certain nombre de parfois de défauts, de scories ou de mauvaises habitudes qui ont pu être prises dans d'autres écoles militantes. Donc là, on a une vraie génération identitaire qui est formée sur le mode d'action, sur les idées, sur, je dirais, je parlais tout à l'heure de réforme morale, presque de tour d'esprit, de façon de regarder les choses totalement dans ce qui animait le cœur du combat des identitaires. Et je pense d'ailleurs que Gérald Darmanin, quand il décide de cette dissolution, il le ressent très bien. Je pense que nos auditeurs se rappelleront. Le début de génération identitaire, c'est l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers, mosquée des frères musulmans, hein. Il y a pas de dégradation, il y a pas quoi que ce soit, avec un message finalement assez modéré. Mais moi, j'ai toujours dit, je préfère les actions fortes et les mots mous, les mots modérés, disons. Je trouve que c'est plus fort d'avoir une banderole qui finalement demandait juste un référendum sur l'immigration et l'islamisation de la France. Mais vous le faites depuis le toit du chantier d'une mosquée des frères musulmans à Poitiers. Du coup, ça devient un peu plus musclé. Quand il y a l'incroyable action dans les Alpes, hein, c'était les opérations Defend Europe, je ne sais pas si nos éditeurs s'en rappelleront.
Avec l'hélicoptère,
les 4x4, avec la recréation d'une frontière. En fait, les militants établissent une frontière dans les Alpes pour empêcher les migrants de passer. On est sur un message qui est finalement très soft. Il n'y a pas de maximalisme verbal, il n'y a pas d'outrance, si ce n'est qu'il y a une action qui est absolument spectaculaire. Et c'est ça finalement que Darmanin veut sanctionner, parce qu'on arrive à un moment où en fait tout le monde à chaque fois faisait waouh, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire, c'est des types d'iens avec des je vais le dire très simplement, mais avec des bonnes têtes. On voit que c'est des garçons,
oui,
des garçons et des filles sains, exactement. Et je pense que c'est ce qui a été sanctionné. Donc ouais, c'est vrai que c'est une fierté d'avoir amené ça. D'abord, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on bâtit, ce qu'on construit, et j'ai apporté ma pierre avec d'autres, hein, évidemment, pas tout seul. Ça a été aussi évidemment, on a fait face à des procès, des condamnations. Moi, j'étais condamné à l'époque pour un tract qui s'appelait Ni voilé ni violé, une campagne qu'on avait lancée. C'était un peu du pré-némésis. C'était Ni voilé ni violé, touche pas à ma sœur. Plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc on a subi, on a dû parfois, c'est vrai, se défendre, parfois s'imposer physiquement, y compris au sein de je dirais presque de notre camp politique, où il y en avait certains qui nous reprochaient d'être trop si ou pas assez ça. Ben voilà, on défendait de toutes les manières possibles ce qu'on pensait être le plus juste, mais je pense qu'on a contribué à une vraie réforme. Voilà, je disais tout à l'heure, peut-être plus une réforme qu'une révolution, comme on le disait à l'époque, mais c'était vrai aussi même sur le style vestimentaire. Aujourd'hui, sans doute pour les jeunes militants, et tout semble évident, mais c'est vrai que on est arrivé dans un monde militant chez les jeunes où on était habillé en noir de la tête aux pieds, et puis voilà, fallait faire peur avec des looks un petit peu folkloriques parfois, et nous on a amené ce côté très, il y a pas le cochon pour que je mette une pièce, donc je peux le dire, le côté un peu
sport, juste derrière vous,
le côté un peu, comment on dit,
plus lisse,
c'était pas, non mais j'allais venir sur les vêtements un peu sportswear, un peu casual, voilà, j'ai deux pièces, voilà,
j'y suis allé,
je vais laisser mon billet à la fin, mettez-moi des crédits, et on a amené, et ça a été une vraie, aujourd'hui quand je regarde tous les groupes de jeunes militants, s'habillent comme on s'habillait nous il y a 20 ans, voilà, c'était les parkas North Face, enfin plein de choses qu'on a amené dans qui donnaient un autre style, qui donnaient un autre regard. avec un style, disons, disponible pour l'action, mais tout en ayant, comme je disais tout à l'heure, la vocation à pas faire peur à nos grands-mères, pas faire peur à ceux qui pourraient partager nos idées. Moi, ce que je disais, j'ai fait beaucoup de formations, on a eu jusqu'à 300 jeunes dans nos universités d'été, avec des jeunes de toute l'Europe, d'ailleurs. Voilà, je disais toujours, ne mettez pas un mur supplémentaire entre vous et celui à qui vous voulez parler. Donc, évidemment, qu'une apparence, qu'un look... peuvent mettre une barrière. Vous pouvez pas être vous-même une barrière pour l'idée que vous défendez. Vous devez au contraire, et je disais toujours, la première chose que quelqu'un voit quand vous lui tendez un tract, c'est pas le tract, c'est vous. Voilà, on pourrait poursuivre là-dessus, c'est sur l'attitude, etc. Mais voilà, c'est vrai, c'est une fierté, et c'est une fierté, et c'est une profonde aversion pour le ministre Darmanin, qui a dissous Génération Identitaire, et qui a fait aussi, d'ailleurs, à redonner un petit peu d'allant peut-être à des formes d'engagement que je juge moins productives. Voilà, et je pense qu'on a, et bon, il y a de la vraie fierté, on a formé des générations entières de jeunes qui œuvrent, qui continuent de transmettre. Il y a d'ailleurs des jeunes qui se reconnaissent toujours dans ce modèle-là, et il y en a un peu partout. Voilà, des gens qui sont passés par le militantisme identitaire, ou qui ont été influencés d'une manière ou d'une autre, par nos codes, par nos mots, etc. On a été les premiers. Je me rappelle par exemple qu'on avait fait notre université d'été de 2012, elle s'appelait Direction Reconquête. On était les premiers à mettre la question de la remigration sur la table, le localisme. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui aujourd'hui sont presque prises pour acquises, ou en tout cas qui font partie du débat commun de la droite, ou même des droites. Bah, on a été précurseurs.
Ça, c'est un élément qui revient régulièrement dans toutes vos chroniques, Philippe Vardon-Rébeau, c'est ce qu'on fait n'est pas inutile. Parce que j'imagine que quand vous lancez les identitaires, c'est pas encore Génération Identitaire et c'est pas encore les victoires sémantiques indéniables de ce mouvement, presque international maintenant, puisque certains des termes imposés par le mouvement sont jusque dans l'administration américaine actuelle. En même temps, et vous racontez cette anecdote que des choses que vous avez faites il y a 15, 20 ans, des actions qui pouvaient ne pas avoir beaucoup de sens, mais où on aurait pu dire que la balance coût-bénéfice était peu explicite, et pourtant vous trouvez des fruits encore aujourd'hui de ces sacrifices.
Oui, en fait, le militantisme, c'est faire sans savoir quand viendra, c'est semer sans savoir quand viendra la récolte, et je vais même aller plus loin, sans savoir qui récoltera. On l'a évoqué tout à l'heure, moi j'ai passé 20 ans à affronter le système Estrosi, je l'ai fait condamner à plusieurs reprises, il aura échappé à personne que je ne suis pas le maire de Nice aujourd'hui sur votre plateau. Il y a bien sûr sa part aussi dans la récolte, mais je crois qu'on a amené avec ceux qui ont combattu à mes côtés quelques graines, parce qu'on a affaibli le système Estrosi, on a beaucoup affaibli l'image de Christian Estrosi, et d'ailleurs l'un à l'occasion des récentes élections municipales et de la défaite de Christian Estrosi, un vieux militant compagnon de route depuis des années me disait mais t'as vu Philippe, ça a fonctionné. Je dis bah oui, ça a fonctionné, il a perdu, oui ça a fonctionné, la campagne de Ciotti a fonctionné. Il me dit non, c'est exactement ce que tu nous disais. J'étais un peu circonspect, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais. Il me dit mais oui, à chaque fois qu'on faisait un truc, à chaque fois qu'il y en avait un qui avait un peu tu nous disais mais regardez le système Estrosi, voilà, c'est ce mur là immense, épais, solide, et nous on est avec nos petits marteaux, et tu nous disais à chaque fois voilà, regardez là les 1000 tracts qu'on vient de mettre dans des boîtes aux lettres, c'est des coups de marteau. Quand tu le faisais condamner, tu nous disais, vous avez vu, on a fait tomber un bloc du mur. Et il dit, ben regarde, c'est bon, ça y est, le mur est tombé. Et c'était assez touchant de la part de ce militant qui me disait, ben en fait, on a contribué et sans doute à travers ça, il disait aussi, bah ouais, moi aussi, je dis des milliers de tracts, mais je sais pas. Centaines de milliers, oui, je sais pas, ce serait intéressant à compter, mais, et toutes les actions, et toutes les fois où effectivement, où ça a été dur, etc. Et oui, on ne sait pas, moi j'ai croisé au détour de meeting, parfois, prenons un exemple qui va nous parler. Quand je fais cette chronique le mercredi, à ce micro, je vais vous dire sincèrement, parfois quand je la prépare, j'ai un peu l'impression que je parle pour moi, Liselotte, Richard, Alexandre, nos amis, on n'arrive pas à matérialiser ça. Et puis en fait, je me rends compte, bah, notamment en tournant. Alors oui, il y a les vues sur YouTube derrière, il y a la deuxième vie. Mais je rencontre des gens partout qui quand je tourne pour présenter le livre, quand j'accompagne Marion Maréchal en déplacement ou quoi, qui me disent ah j'ai écouté votre chronique sur tel sujet, je connaissais pas Sergio Ramelli, j'ai découvert Sergio Ramelli avec votre chronique, etc. Et on sait pas en fait, on ne peut pas savoir. Quand on doit se réveiller à 6h du matin pour aller tracter un lycée, une fac, une usine. On a l'impression que ça sert à rien, on a fini le tractage, on prend le café avec les quatre camarades qui nous ont accompagnés, mais bon, ouais. Bah ouais, mais il y a peut-être quelqu'un, j'ai rencontré un très très bon compagnon de lutte aujourd'hui qui m'a dit, mais moi en fait, ce qui a fait que je me suis engagé, c'est qu'un jour je vous ai vu devant mon lycée, et je me suis dit, je veux être avec eux. Ils partageaient déjà le sentiment, l'impression, les idées mal dégrossies, mal définies, mais... Et il m'a dit, bah, vous étiez là, vous aviez de la présence, vous étiez courageux dans le geste, et je me suis dit, bah, moi, j'ai envie d'être avec eux. Et donc, ce matin-là, on devait tous faire la gueule en se levant pour aller tracter. Il y en avait sans doute un qui avait passé, hein, parce que je viens du fond des âges militants, moi, donc il y en avait un qui avait sans doute massicoté les tracts le soir avant, puis on avait pris du temps pour l'écrire, et puis sans doute, on n'en sait rien. Et effectivement, un slogan, une action, alors si on parle des actions les plus spectaculaires, mais on peut aller aussi sur le terrain électoral, c'est la bonne performance médiatique d'une Marion Maréchal aux grandes gueules il y a quelques jours de ça, c'est la bonne émission de Marine Le Pen sur LCI, où elle était impériale là, il y a quelques jours avec Darius Rojemin, elle avait un charisme, une autorité incroyable. Et d'ailleurs, c'est là qu'il va se passer quelque chose, et c'est évidemment très vrai dans le militantisme de terrain. Et oui, j'ai souvent été surpris de gens qui viennent vous dire, mais ah là, tel autocollant, tel slogan, telle action, telle émission de Charles de Meyer, voilà ce qui m'a marqué et qui a fait que j'ai eu envie d'y aller. Et puis bien sûr, quand il y a des moments d'effervescence qu'on a un peu connus tous les deux, il me semble, je pense à la Manif pour tous, où d'un coup, il se passe des choses. Et puis il y a des
moi,
gens
je serais pas là sans la manif pour
il y a des gens qui se révèlent, mais c'est vrai pour toute une génération. Je suis beaucoup plus vieux que vous, mais on la manif pour tous a été in fine une défaite politique, mais aujourd'hui le monde des droites est totalement irrigué de gens qui se sont révélés au combat par là, dans la rédaction du Figaro, dans les rédactions de Valeurs Actuelles, dans les gens qu'on retrouve ici, et surtout dans les gens qui se sont connectés à ce moment-là, parce que des univers, quand il y a un moment, un grand moment de lutte comme celui-ci, il y a des univers qui se parlaient pas, qui se sont connectés. Je pense qu'on n'a pas fini de mesurer, ça aussi, ça serait un livre à écrire, l'impact politico-culturel sur les droites au sens le plus large qu'a eu le moment Manif pour tous. C'est pas le seul, il y a des gens qui sont passés à côté, mais je pense à François-Xavier Bellamy, c'est pas totalement étranger. On parlait tout à l'heure de Marion Maréchal, l'explosion politique de Marion, c'est à ce moment-là, parce qu'elle va montrer toute sa détermination, etc., et sans doute plein d'autres, mais donc voilà, il y a le militantisme, ça sert pas à rien. En fait, s'engager, ça sert pas à rien. La seule certitude, c'est que je le dis un peu dans l'introduction qui sert de cadre au livre, c'est que vous pouvez, si vous faites pas, d'autres font. Il y en a d'autres qui ce que je dis, on peut pas dire pousse. Dans la marche du monde, vous pouvez pas dire pousse, j'arrête de jouer, parce que le monde vous rattrape. Vous pouvez pas totalement fuir, même les démarches très communautaires, recours aux forêts, Aurélie Junger, je me retire, etc. Mais un jour, on vient vous chercher. Donc il y a pas d'autre solution que l'action politique. Vous pouvez dire, je vais mettre mes enfants dans les écoles hors contrat. Très bien. Sans doute est-ce la bonne chose à faire pour essayer de les épargner. Alors, ça dépend d'où vous habitez, de vos possibilités, etc. Mais sans doute un bon choix. Mais c'est pas suffisant. Parce que la politique viendra chercher les écoles hors contrat de vos enfants.
Elle vient les chercher.
Vous pouvez vous dire, j'ai réussi à mettre à l'abri ma famille économiquement. Bravo, c'est un de nos devoirs d'essayer de protéger nos familles, y compris sur ce plan-là. Mais aujourd'hui, les vilains, les méchants, les racailles, ils viennent vous chercher partout. Vous pouvez sortir dans la boîte de nuit la plus branchée de Cannes ou de Monaco, vous allez tomber sur des types qui ont des moyens économiques aussi, parce que eux, c'est des dealers. Et vos enfants seront confrontés à cela, et on viendra vous chercher chez vous. Donc je dirais qu'évidemment, tout le monde n'a pas la nature, le tempérament dont on parlait tout à l'heure du militant, mais je crois que personne n'a totalement le choix d'échapper à la lutte. Donc à chacun de mener... là où il est, de faire avec ses moyens, selon ses talents, au sens presque biblique du terme, hein, y compris le soutien financier, hein, soutenir cette radio, soutenir Marion Maréchal et Identité Liberté, soutenir, je pense, une association comme l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, qui est aux côtés des militants, soutenir ceux qui prennent les risques pour vous, aller acheter peut-être les livres de ceux qui montent en première ligne. Il y en a plein d'autres que le mien, hein, c'est pas que du placement de produits, mais voilà, c'est aussi ce qu'on fait comme choix avec ses talents au sens premier du terme. Ça donne aussi du sens.
Et j'en profite, puisque c'est un appel au don, pour lancer le Bobino de Radio Courtoisie.
Savez-vous que l'été dernier, plus de 300 000 chiens et chats ont été abandonnés sur la route des vacances? Chaque année, des maîtres indignes claquent leurs portières et s'en vont, laissant derrière eux un compagnon fidèle qui, lui, ne les aurait jamais abandonnés. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie, qui, elle aussi, reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre cet été et vous préparer une rentrée percutante. Un euro, rien qu'un euro, pour nous aider à traverser la période la plus difficile de l'année. Ne nous abandonnez pas. Par avance, merci de votre fidélité. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Et ça nous permet d'avoir un livre de chronique comme celui de Philippe Vardon-Rébo que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir. Je rappelle le titre, il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard, chronique d'expérience radiophonique aux éditions ID et disponible sur patrotard.fr. Philippe Vardon-Rébo, on a parlé de toute cette construction, de cette volonté de conjurer le « c'est foutu », vous avez l'expression. Vous avez aussi une réflexion sur le temps. On sent que, alors, ça fait un peu le squelette de vos chroniques, on a bien compris, mais ça va au-delà de ça. Il y a une dimension de « le temps est une question militante » qui semble... vous préoccupez depuis longtemps. Alors expliquez-nous d'abord, est-ce que j'ai bien lu votre livre, bien compris ce qui vous animait sur cette question, et pourquoi est-ce que pour vous c'est important?
Tout est dans le titre. Alors c'est peut-être pas, je fais pas trop de mystère parce que je donne ma réponse à la question, mais la question du savoir s'il est très tard ou trop tard, en fait, elle est fondamentale. En fait, de la réponse que vous allez apporter à cette question, hein, cette espèce de position, la réponse que vous allez apporter à cette question, très tard ou trop tard, ça va conditionner votre regard sur l'action. Parce que évidemment, vous dites le temps. J'ai illustré la couverture du livre, c'est un sablier. Ça aurait pu être une horloge. Je crois que le sablier avec ce sable qui s'écoule, c'était plus parlant. Et le temps continue. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, face à la situation, évidemment, l'urgence démographique, hein, face à l'immigration massive, qui est, à mon avis, la question existentielle qu'on a adressée, qui est devant nous, certains se disent, voilà, voir certaines sorties d'école, la fréquentation de certaines maternités, certains quartiers, ce qui s'est passé dans les mairies récemment avec les victoires des islamo-gauchistes, et on a des gens qui se disent, c'est trop tard, c'est-à-dire que,
la Nouvelle France avait déjà gagné.
Voilà, l'horloge, je cherche mon mot, pardon, dans une horloge, il y a des
aiguilles.
Des aiguilles, voilà, c'est ça, merci. Les aiguilles de l'horloge vont trop vite, et donc on peut plus rattraper, ou même, ce que je crois nécessaire, inverser. Et donc c'est trop tard. Mais sauf que la conséquence, en fait, du trop tard, elle est terrible. Parce que si vous dites c'est trop tard, c'est que c'est donc foutu, comme vous dites, c'est fini. Et la conséquence de c'est fini, c'est quoi? C'est qu'on fait rien, puisque c'est fini. Donc on fait quoi? On se retire, on arrête, on dit pouce, ça marche pas, on en parlait tout à l'heure, on peut pas dire pouce, les autres vont continuer. Et vous voyez qu'on est dans un espèce de piège, où en fait on dit c'est foutu, donc c'est trop tard, donc c'est foutu, donc je fais rien, parce que la situation est terrible, c'est trop tard, c'est foutu, donc je ne fais rien. Mais la conséquence de l'absence d'action, c'est quoi? C'est que la situation est encore plus terrible. Et c'est vraiment ce que j'essaye en effet de conjurer à travers ces chroniques, mais je crois que finalement c'est peut-être un petit peu ce que j'ai toujours essayé de conjurer, parce que on est toujours confronté, mais nous aussi on a des moments comme ça. Moments où je me dis mais comment on va faire, quoi, c'est pas possible. Je sais pas, les images des gens qui se jettent sur des climatiseurs dans les Lidl ces jours-ci, le niveau de décivilisation, formule de notre cher président Macron. comment on va rattraper ça? Mais si j'arrête, ça veut dire quoi? Et puis, comme nous, on a la conscience, on sait qu'on s'inscrit, on a une conscience historique, on a une conscience identitaire, on sait qu'on s'inscrit dans les âges, dans un lignage, on a conscience de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui nous ont précédés, puis aussi que ça va continuer après nous. Et donc, si moi je dis c'est trop tard, c'est foutu, c'est fini, ça veut dire quoi alors pour mes enfants? Et donc, en fait, j'ai pas le droit.
Alors vous avez l'option de la fuite.
J'ai pas le droit, mais on peut, moi je crois sincèrement qu'on peut pas fuir. Voilà, je vous le dis, je ne crois pas qu'on puisse fuir. Je crois qu'on est toujours rattrapé. Et donc, si vous voulez, quitte à choisir, je préfère affronter de face, décider où je mène le combat, où va avoir lieu la bataille, hein, les règles de Sun Tzu, plutôt que d'être attaqué dans mon dos quand j'essaye de fuir. C'est pas terriblement honorable, mais en plus, c'est le plus dur pour se défendre. Et en plus, comme vos auditeurs, et surtout ceux qui nous regardent en vidéo pourront le constater, je suis pas celui qui court le plus vite. Donc, le mieux à faire pour moi, c'est de me coller dos au mur et de jouer les Thermopyles plutôt que de tenter la fuite. Moi, je crois qu'on peut pas fuir. Qu'on peut pas fuir. Et puis, je vais vous dire, en fait, ce sentiment d'urgence, moi, il m'habite autant que vous, sans doute, autant que ceux qui nous écoutent. D'abord, moi, je crois, voilà, que c'est une formule de Dominique Vénère, hein, que l'espoir mène plus loin que les idées noires. Mais surtout, fondamentalement, face à ce sentiment d'urgence, moi, il y a une idée très simple qui m'habite. J'essaye toujours, j'ai essayé tout au long de mon engagement politique d'être le plus efficace, d'être le plus à ma place, d'être le plus utile, là où je pouvais. C'est vraiment mon idée centrale. Mais surtout, je prie tous les jours pour que mes enfants n'aient pas affronté ce que je n'aurais pas su ou ce que je n'aurais pas pu empêcher. Et ça, c'est mon idée centrale. Moi, je veux pas être celui qui a fui les combats que mes enfants auront à mener. Voilà, mon idéal, c'est plutôt... Bah, s'il y a des combats à mener, que ça soit pour moi, et eux, j'espère qu'ils pourront faire autrement, faire autre chose. J'espère aussi qu'eux aussi, à leur manière, transformeront le monde afin de pouvoir tolérer y vivre. Parce que le monde, il faut toujours l'améliorer. Mais voilà, on doit être à notre poste, et on doit être à notre poste comme chaque génération l'a été. Moi, j'utilise souvent cette image qui est celle de la chaîne. Voilà, on est tous quelque part pris dans une chaîne. Il y a tous les maillons qui nous précèdent. Nous, on est ici. Voilà, moi, c'est un maillon un petit peu plus épais, c'est celui-ci. Et puis il y a des maillons qui viennent après nous, et puis moi j'espère qu'ils vont continuer, c'est mes enfants, ça sera un jour mes petits-enfants, leurs enfants, et il faut que ça continue. La seule question, ça reprend un peu la citation du magicien Gandalf que je citais tout à l'heure, hein. Ce qui nous appartient, c'est de décider ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti. Et donc, est-ce que je vais être le maillon qui casse? Tous ces maillons-là, ils ont tenu dans des situations parfois terribles, de misère, de pauvreté, de guerre, d'affrontement, ils sont débrouillés pour que ça arrive jusqu'à Charles de Meyer et Philippe Vardon, et moi je vais être le maillon qui faiblit, qui s'amollit, qui casse. Ça me semble pas possible, parce que je sais justement qu'il y a non seulement tout cela, et je leur dois un petit peu, mais je dirais qu'à la limite ça c'est le moins grave. Par contre, ceux à qui je dois beaucoup, c'est les maillons qui viennent après, et ceux-là, voilà, je considère que c'est mon devoir de faire le nécessaire.
Alors, on va en parler un petit peu à la suite. Il y a évidemment une chose nouvelle depuis votre engagement militant, c'est que le camp national n'a jamais été aussi proche des portes du pouvoir. Mais on va parler du camp national après quelque chose qui est peut-être, alors sinon plus important, mais dont vous montrez qu'il nourrit l'action. C'est tous les signes culturels que vous faites un malin plaisir à mettre en avant. Pour vous, Philippe Vardon-Rebaud, il y a de la politique, il y a de la politique régulière, de l'offensive et de la louange d'ailleurs. Alors, louange est peut-être un terme un peu exagéré, mais il y a aussi une grande attention à tout ce qui existe dans notre société, dans nos constitutions humaines, et qu'il faut mettre en avant. Les pèlerinages qui fonctionnent, vous leur accordez du temps. Les intellectuels qui se mobilisent, vous leur accordez du temps. Les associations qui mènent des combats sains, vous leur accordez du temps. Les victoires des petits matins, c'est votre expression, je crois, de Marion Maréchal face à l'Institut de formation des frères musulmans, d'Anne Sicard à l'Assemblée nationale sur le pass culture, vous leur accordez du temps. Pour vous, tout ça, ça a de l'importance, ça mérite des chroniques et ça mérite qu'on s'en réjouisse. Ça vous insistez beaucoup dessus.
Oui, je commencerai par la fin. Si vous voulez bien, ça mérite qu'on s'en réjouisse. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez sur le grand soir et nos petits matins. Ça aussi, c'est une expression qu'on utilisait avec les identitaires et que j'ai réimporté. Mais effectivement, vous savez, nos adversaires, il y a le grand soir communiste, le grand soir, celui qu'on peint de rouge, etc. Et moi, j'ai toujours, nous, on a nos petits matins. On a nos victoires concrètes qu'on va chercher parfois avec les dents qui tiennent à la détermination, souvent d'un petit nombre. Et c'est pour ça que je tiens aussi à travers ces chroniques à les mettre en avant. Quand Anne Sicard, donc députée Identité Liberté du Val d'Oise, à l'Assemblée nationale, mène le combat sur le pass culture, d'ailleurs sur plusieurs fronts, elle en fait sortir un festival Antifa, bravo, c'est-à-dire que notre argent fait plus festival, mais elle fait aussi rentrer le Puy du Fou qui devient éligible au pass culture. Je vais pas passer trop de temps pour rappeler, le pass culture, c'est ce qu'on donne aux jeunes, c'est de l'argent public qu'on donne pour dire allez acheter des livres, des disques, participer à du spectacle vivant, etc. Et on leur donne comme ça une somme d'argent qui leur est allouée. Le Puy du Fou y était pas. La Fête de l'Humanité y était. Alors c'est vrai, il y a des concerts à la Fête de l'Huma, à la limite, moi je suis même pas pour dire faut sortir la Fête de l'Huma, etc. Il y a des concerts à la Fête de l'Humanité, on va peut-être pas y aller tous les deux, mais pour dire, il y a des groupes sympas parfois quand même. Admettons. Mais il n'y a pas le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est pas du spectacle vivant. C'est pas un peu un choix politique, ça? Bah, Anne Sicard, elle se bat et elle ramène le Puy du Fou dedans. Bah, je dis ça, c'est non seulement c'est une victoire, c'est un tacle à la gauche. Et puis surtout, bah, c'est des gamins qui vont pouvoir utiliser cet argent pour aller au Puy du Fou. C'est formidable. Quand Marion Maréchal, en fait, elle contribue, je le dis parce qu'on est toujours, on a un énorme défaut, on est un peu pudique, un petit peu sur les trucs, et on dit, voilà, j'allais le dire de moi-même, je veux dire, Marion Maréchal contribue à faire fermer l'IESH, mais les avocats de l'IESH, donc l'Institut de formation des frères musulmans, ils disent, c'est de la faute de Marion Maréchal, hein. C'est une énorme victoire. C'est l'Institut qui forme des imams des frères musulmans au niveau européen, pas que pour la France. C'est incroyable comme victoire politique. En fait, on met la pression sur le gouvernement, etc. Et derrière ça, on va être désespérés. Ben non, en fait, on a ces petites victoires concrètes et il faut les mettre en avant parce que c'est celles qui regonflent les voiles. Moi, quand je veux conjurer le c'est très tard, je conjure aussi une espèce de. J'étais en café débat hier soir à Lyon et quelqu'un me dit vous êtes optimiste. Non, moi, je suis pas du tout dans l'optimisme BA. Moi, je suis dans la combativité. C'est pas la même chose. Oui, j'ai une certitude, c'est qu'à la fin, on va gagner. Je dis même, c'est pas une certitude. Je dis, c'est pas je le crois, c'est je le sais. Voilà. Je le sais. Ça veut pas dire que ça sera pas long, que ça sera pas semé d'embûches, semé d'épreuves, hein. J'utilise l'exemple comme leçon historique. Je veux dire, le début de la Reconquista espagnole, j'espère ne pas faire d'erreur dans la date, c'est la bataille de Covadonga, c'est 722 de mémoire. Hein, que le roi Pélage, il est avec, j'allais dire, 4 pelés, ça fera un jeu de mots, mais enfin, ils regardent, ils ont les chevaux qui sont affamés, les épées sont émoussées, les armures sont rouillées, et il va avec sa petite troupe là-bas à Covadonga dans les pics d'Europe aller affronter le califat Omeyyade. D'ailleurs, lui aussi, on parlait tout à l'heure des actes militants dont on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Je pense pas que le roi Pélage et sa troupe, quand ils mènent ces actions de guérilla, dirait-on aujourd'hui, face au califat Omeyyade, ils se disent les gars, on est en train de lancer la Reconquista, ça va bien se terminer dans 700 ans. Il fait ce qu'il a à faire, et il fait ce qu'il a à faire pour les siens, pour son plus proche, sans doute lui aussi, en se disant mais moi. Mes enfants, ma femme, et puis les enfants de mes enfants, je veux pas qu'ils vivent sous le joug de cela. Et ils mènent l'action. Il s'est pas dit c'est foutu, c'est fini. Ils sont pas allés se cacher dans la grotte de Covadonga en disant j'espère que ça va passer. Il paraît qu'ils vont s'arrêter à Poitiers. C'est bon, qu'ils nous voient pas en chemin. Non, ils mènent la bataille. Et ça dure combien de temps? 722, la bataille de Covadonga. J'espère ne pas me tromper sur la date. On corrigera
au besoin. Benoît est à l'affût.
722, la bataille de Covadonga. 1492, la fin de la Reconquista avec la reddition des musulmans, la prise de Grenade. C'est le temps long. Ça sera semé d'embûches, ça sera semé d'épreuves. Et évidemment, mais on gagnera. Si je dis, par exemple, parler tout à l'heure des victoires des islamo-gauchistes dans les communes récentes municipales. Ils ont pris Saint-Denis, on a donc les grandes manifestations de Bagayoko et Mélenchon qui sont à quelques pas de la basilique où sont, je le rappelle, non seulement les tombeaux des rois de France, mais le tombeau de Charles Martel. Charles Martel est à la basilique de Saint-Denis. Bah, vous pouvez dire, il y a deux options. Vous pouvez dire, ils ont pris Saint-Denis, c'est foutu, c'est fini, faut rien faire. Vous pouvez dire, moi, c'est ce que je dis, moi, nous reprendrons Saint-Denis. Nous reprendrons la ville de Saint-Denis, nous reprendrons le département du 93, nous reprendrons la basilique de Saint-Denis, parce que c'est comme ça que les choses vont se passer. Et de ce que vous dites là, bah ça change tout. Donc déjà, je me méfie, j'allais dire, je me défie même de cette espèce de pessimisme du tempérament, et y compris parfois qui peut être entretenu parmi nous, y compris dans nos médias. Hein, parfois, on peut se retrouver comme ça autour d'une table à nos micros, et puis il y en a un qui est pas content, l'autre qui est encore moins content, et l'autre qui est très en colère, et on nourrit quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a une de nos missions, c'est quand même de montrer que nous, l'avenir qu'on veut, C'est un avenir qui est désirable, en fait. C'est un avenir de paix, de prospérité, etc. Et c'est pas... Il y avait ça avant, le club des ronchons.
Si, si.
Et oui, et oui. Mais c'est, on peut pas être que ça. Et donc, c'est important de montrer ces petits matins. Et puis oui, le politique et le culturel. Je sais pas, moi, différencier les deux, en fait. D'ailleurs, quand je définis identité et liberté, je dis c'est un mouvement politico-culturel. Comme je pense que je fais de la politique pour défendre ce qui est notre fond culturel, civilisationnel, même si on va. Et puis je pense que c'est avec la politique qu'on change le monde. C'est peut-être ce que je pourrais corriger par rapport à ce qui a été mon premier livre, quand ça va être vieux, où je disais beaucoup Gramsci à l'époque, hein, le combat métapolitique, combat culturel, etc. etc. À certains égards, un peu revenu, parce que je pense que c'est aussi la prise de pouvoir politique qui vous permet d'avoir une action culturelle.
On le constate tous les jours.
Orban a perdu les élections. Néanmoins, ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit, la réforme morale et culturelle qu'il a portée en Hongrie, on peut être d'accord, pas d'accord avec tout, mais enfin, disons sur le fond, elle va laisser des traces extrêmement importantes. Ça fait longtemps, enfin pas si longtemps, enfin je sais pas, est-ce que les socialistes sont encore au pouvoir ? Ce que je voulais dire, enfin mon idée c'était de dire ce qui s'est passé en 80 avec la victoire de Mitterrand a encore des conséquences jusque dans les décisions du Conseil constitutionnel et enfin voilà. Donc évidemment que moi quand je parle de combat culturel, c'est comme sous-tendant, sous-jacent à l'action politique, mais vraiment intimement lié. Voilà, et je crois pas qu'on puisse dire, c'est pas par snobisme. Et c'est important, et c'est vrai qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, à mon avis, dans notre pays. Là aussi, je le dis pas par optimisme BA, etc. Bon, je parle à quelques reprises de ces pèlerinages de tradition. C'est le succès du pèlerinage de Chartres, mais on voit maintenant avec toutes les déclinaisons locales. On a Nostoffé en Provence, Fès et Braise, et j'en oublie plein d'autres. Il se passe un truc. Alors, on peut le prendre en se disant, bah oui, il y a plus de baptêmes d'adultes, souvent de jeunes adultes, mais il y a moins de baptêmes d'enfants dans une société qui se déchristianise. Mais le dynamisme, il est du côté de plus de baptêmes d'adultes en réalité, parce que ceux-là, ils vont faire baptiser leurs enfants. Et donc, il se passe des choses. Il y a la quête identitaire qui a été la mienne il y a 30 ans de ça et qui m'a amené finalement dans l'engagement politique. Aujourd'hui, elle est partout et moi je pense qu'il se passe quelque chose très en profondeur et c'est ce qui me permet non pas d'être optimiste, j'aime pas trop cette idée là, mais d'avoir beaucoup non pas seulement d'espoir mais d'espérance avec un grand E, vous voyez, comme une vertu.
C'est très bien, vous faites la transition en plus avec Philippe Vardan et beau, comme Marion Maréchal dans son livre Si tu te sens Le Pen, vous avez un rapport assez décomplexé dans ses chroniques à l'expression d'un christianisme ou de la place du christianisme dans ce combat politico-culturel. D'abord, pourquoi ? Est-ce que c'est un trait d'identité-liberté ? Parce que, au final, c'est assez rare dans le paysage politique français, si on veut le dire. Et je veux moins le pourquoi de... pourquoi c'est une réalité politico-culturelle. Sur Radio Courtoisie, il n'y a pas besoin de convaincre. Mais pourquoi est-ce que vous, ça vous paraît important ?
Ouais, parce que... d'abord, il y a une dimension personnelle. Moi, j'étais baptisé à 12 ans. Puis je me suis éloigné, j'étais baptisé dans le cadre du scoutisme, hein, donc je grandis en cité, famille assez déchristianisée, mon père avait estimé que je choisirais si je voulais être baptisé. Pas très pratique, hein, c'est un chemin à faire après. Et en fait, à travers le scoutisme, je me retrouve dans le scoutisme absolument par hasard. En fait, le local à l'époque des scouts, je suis donc pas d'une famille catholique, pas d'une famille culturellement de ce milieu, etc. Le local des scouts, il y a un nouveau local pour les scouts d'Europe qui est inauguré. Il y a un article dans Nice Matin. On vient de s'installer en cité. Ma mère dit waouh, les scouts c'est génial, ils vont dans la forêt, ils crapahutent. Et là, on vient de s'installer entre 15 tours de béton. Ça me semble une bonne idée. Et donc je me retrouve absolument par hasard. Ça aurait été un article sur les éclaireurs de France. Je serais militant à LFI aujourd'hui. Non, peut-être pas. Mais enfin, en tout cas, les choses auraient été différantes. Et donc je suis louveteau. Vous aurez pas de photos, n'insistez pas.
On en trouvera.
mais j'ai eu de la chance, il y en a pas trop. Puis scout, et puis voilà, je fais ce chemin du baptême. Je m'en éloigne un peu au début de mes années militantes parce que on va chercher des modèles plus forts, et puis je vais redécouvrir les choses. Donc c'est un chemin, et je vois aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui font ce chemin-là, et puis en fait, je pense qu'on en a besoin. Voilà, que dans le au-delà des aspects qui sont ceux de la foi, et moi j'ai Marion utilise cette formule qui me semble très juste, j'essaye d'être catholique, c'est compliqué. On a besoin de piliers, on a besoin de cadres, et on voit d'ailleurs que notre société, et puis c'est la première réponse qui m'est venue, pardon, mais je veux dire, il nous faut bien un nous. Voilà, puisqu'on a compris, là, on est confronté à l'autre, hein, celui avec le grand A, et donc il faut bien qu'on aille rechercher ce nous. Et je pense que notre société est en train d'aller rechercher ce nous. Que c'est pas juste les jeunes, que c'est pas qu'il y a tout le monde qui est en train d'aller rechercher ce nous. C'est un peu balbutiant, on sait pas, et nous, c'est vrai qu'on... politiquement, on essaye d'y répondre un petit peu, d'aller porter la réponse intégrale, voilà, d'aller un peu au bout là-dedans. C'est pas en traitant ça de manière politique, mais si on pense à la question européenne et que d'un coup on se met à la regarder comme une question civilisationnelle, et donc une question civilisationnelle largement irriguée par le christianisme, c'est plus exactement le même sujet. Si on regarde notre confrontation avec l'autre, et qu'on se met à le regarder là aussi avec un regard civilisationnel, historique, là aussi lié au christianisme, c'est plus exactement le même sujet. Donc je pense qu'on a besoin, encore une fois, au-delà de la dimension de la foi, et qu'on a besoin de cadre. Moi je suis très impressionné. Quand il y a des processions à Nice, comme je disais tout à l'heure, on est des Français assez récents, donc on a un catholicisme assez populaire, un peu à l'italienne, beaucoup de confréries, de pénitents, et donc il y a beaucoup de processions, dans la vieille ville notamment, etc. Je suis très impressionné par le regard des gens lorsqu'il y a des processions. Les gens filment, les gens photographient,
les gens ne sont pas choqués du tout.
Ils sont pas du tout choqués, ils sont très impressionnés, très respectueux. Et il y a une forme d'émerveillement. Et puis quand c'est bien fait, évidemment, en plus, il y en a qui font ça très mal, mais enfin, on a des confréries de pénitents à Nice qui savent faire, donc ça chante bien. Les gens ont des bonnes têtes, il y a des enfants.
Le chant, c'est un truc que vous avez.
Il y a des prêtres.
Bien,
oui, oui, oui aussi, c'est bien le chant. Ça unifie les gens. Le chant, ça peut donner des slogans, des moments de communauté. Et oui, on chante plus assez. Je regrette voilà, la musique, c'est on chante plus assez. Mais nous, on chante à Identité Liberté, à Don Rémy, c'est quoi, un type d'horizon. Nous l'a même reproché. Il a reproché à Marion Maréchal de chanter au 31 du mois d'août. Voilà, il a étalé toute son inculture en quelques secondes. Voilà, ces gens-là ont plus de fond. Et oui, il faut bien sûr, faut chanter. Et donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, en fait, qu'on embrasse. Voilà, en disant ça fait partie de nous, et donc ce nous, en fait, il faut redonner du nous. À gauche, on dirait refaire France, là, tout ce type de formule. C'est pas totalement faux. L'intuition est pas totalement fausse. Je préfère la formule de Mistral. J'ai peur de mal le citer. Il faut pas seulement faire une majorité électorale. Faut refaire un peuple. Et on est un peu dans cette démarche. Là, parce qu'on nous a tellement déracinés, on nous a tellement enlevés, on nous a tellement, j'allais dire, martyrisés, mais ouais, un peu humiliés, hein, un peu jetés au sol. On a piétiné tout ce qui avait du sens. On a piétiné le drapeau, on a piétiné le père, on a piétiné la famille, on a piétiné l'église. Remettons un peu de cadre, voilà. C'est pas dire que je suis toujours d'accord avec ce que dit le pape, par exemple, je crois que c'est un pilier et que c'est important, et je pense qu'il se passe quelque chose d'assez profond dans la société, et qu'on a lieu de s'en réjouir.
Et ces réjouissances sont importantes. Il y a aussi des vraies phases de malheur quand vous les abordez. Je pense au hasard du calendrier, hein, hasard terrible. C'est le meurtre sauvage de Philippine de Calan qui vous occupe rapidement dans ces pages. Comment avant de faire de la politique, évidemment, vous pourrez répondre aussi politiquement que vous voulez, Philippe Vardon-Ribaud, mais quand on prépare une chronique sur un meurtre aussi horrible, aussi révoltant, à la fois parce que le mal est commis et parce qu'il y a des responsables à ce mal ailleurs que dans l'auteur, comment on travaille son texte? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à ce moment-là?
C'est vrai que j'ai été... Quand on m'a proposé de tenir cette chronique, au début, je dois vous dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces minutes? Enfin, qu'est-ce que je vais faire de plus que ce que fait Charles de Meyer, que ce que fait Richard de Sèvres? Qu'est-ce que je vais apporter un peu? Et je me suis dit assez vite que je voulais amener cette idée de l'engagement, de la détermination, aussi dur soient les temps que nous vivons. Encore une fois, je les mesure absolument. Et c'est vrai que j'ai été, percuté, quoi. La deuxième chronique à ce micro, c'est la mort de... Enfin, il vient d'y avoir le l'immonde meurtre de Philippine Lenoir de Carlan, et je voulais en parler. Et c'était pas possible de pas en parler, et j'ai fait le choix justement d'en parler, et honnêtement, je pense que c'est ce qui a guidé le reste. En réalité, c'est ce qui a donné le ton, en fait. Alors c'est terrible de dire ce qui a donné le ton, c'est finalement quelque chose de terrible, mais En fait, si je suis allé chercher l'espérance dans ce moment-là, je pouvais le faire chaque semaine. Et j'avais dit, je me suis ressaisi de votre exemplaire du livre. J'avais dit ça, je vais bien le répéter si ça vous dérange
allez-y,
pas.
Allez-y, Philippe.
Philippine le Noir de Carlan, chacun connaît désormais son nom, mais aussi son regard, son sourire. Son nom, comme son visage, nous disent toute la patiente élaboration au fil des âges et des générations qu'il a fallu à ce peuple, à ce pays, à cette civilisation pour produire une si belle jeunesse. Oui, c'est la plus belle des jeunesses françaises qui a été arrachée à ce monde par la crasse de l'humanité, par un prédateur importé, comme l'a si bien décrit Marion Maréchal. Et c'est vrai, ce nom, il est incroyable. Philippine le Noir de Carlan. Il y a des chevaliers qui sont appelés comme ça, on le sait. Il y a des croisés, il y a des explorateurs, on le sait. Il y a tout qui est dit. Philippine le Noir de Carlan, ce nom est incroyable, il est merveilleux, il est tellement français. Le visage de cette jeune fille, tellement doux, belle, mais pas au sens plastique,
elle, dégageant, avec une.
Et c'est vrai que j'avais rapproché ça aussi d'Anne-Lorraine Schmitt à l'époque, hein, la victime d'un criminel dans le RERD. Et oui, on est au-delà de la politique là. Tout était là. J'avais consacré la moitié de cette chronique là au scoutisme justement, puisque oui, Philippine Lenoir de Carlan était cheftaine dans le scoutisme. Et voilà, je considère qu'il y avait tout qui était là. Elle a été, je crois que son assassin était un Marocain sous OQTF, déjà condamné pour viol. Voilà. Donc on permet qu'il y ait un Marocain sous OQTF déjà condamné pour viol qui puisse croiser une Philippine le Noir de Carlan. Et en fait, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Et j'avais parlé du scoutisme et notamment j'avais terminé aussi sur ce chant, hein, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Hein, et c'est là que je dirais que ça a donné un peu le ton du reste. Si on pouvait aller traverser ça avec de l'espérance, parce que cette jeunesse-là existe encore, parce que notre peuple produit encore des Philippines le Noir de Carlan, en fait, des gens, enfin voilà, dans le scoutisme, dans le don de soi, dans la gentillesse, parce que allez, son visage nous disait tout ce qu'elle était. Alors on peut pas faire autre chose que d'aller chercher l'espérance et d'avancer, mais oui, d'avancer, y compris quand les temps sont durs. Et d'ailleurs j'ai tenu à ce que le livre aurait dû être un peu moins épais, un petit peu moins cher, désolé, mais en fait il devait s'arrêter aux chroniques jusqu'en décembre. Et en fait, on l'a rallongé un petit peu, puisque un autre malheur nous a frappé, l'assassinat, le lynchage à mort de Quentin Derenck, hein, par les militants Antifa, par les collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud. Tout ça a été largement évoqué à votre antenne, et j'ai tenu à ce que voilà la dernière chronique de ce livre soit celle que j'avais consacrée à ce micro. C'était pas facile non plus. On était Liselotte qui était à votre place avait voilà les yeux mouillés, moi j'avais la voix qui se nouait, je savais pas si j'allais réussir à terminer. Et voilà, et aussi pour rendre hommage à une jeunesse, j'avais cité cette chanson du groupe de rock identitaire Île-de-France, hein, donner notre jeunesse par amour pour notre idéal, essayer l'impossible sans cesse suivre l'étoile. Et voilà.
C'est évidemment une mémoire qu'on doit tous garder et qu'on garde tous sur Radio Courtoisie. On fait la dernière pause musicale et puis un peu d'actualité politique. Vous n'y couperez pas, Philippe Vardon, à vous. Thank you.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Philippe Vardon-Rébeau pour « Il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard », chronique d'espérance radiophonique aux éditions Idées qu'on peut se procurer sur pastroptard.fr. Alors Philippe Vardon-Rébeau, on l'a dit, ça fait 30 ans que vous militez, peut-être que l'année prochaine, l'élection reine en France, l'élection présidentielle, peut être remportée par le camp national. En tout cas, aujourd'hui, la majorité des sondages donne le camp national gagnant. À ce scrutin. En même temps, nous préenregistrons cette émission le vendredi 3 juillet. La justice vient de décider qui pourrait être candidat pour le camp national. On le regrette, mais bon, on fait de la politique, on fait en fonction de ce qui arrive. D'abord, est-ce que vous êtes optimiste ?
D'abord, vous l'avez dit, on n'a jamais été aussi proche. C'est la première chose que je réponds quand je suis en tournée pour ce livre et que les gens me disent « Ah ben moi je pense pas que c'est très tard, je pense que c'est trop tard ». Je dis « Mais du coup il y a 2 ans, vous pensiez quoi ? Il y a 10 ans, vous pensiez quoi ? Il y a 20 ans, vous pensiez quoi ? Si vous pensez aujourd'hui, évidemment que c'est Hölderlin, hein, là où la nuit est la plus sombre, le jour est le plus proche. J'espère que je cite à peu près correctement.
Le péril croit aussi ce qui sauve.
Ouais, on va y arriver. Là où croit le péril croit aussi ce qui sauve. Donc évidemment que la situation est plus compliquée et face à ça, les Français se réveillent. Se révolte. On a aujourd'hui 12 millions, enfin aux dernières élections, 12 millions d'électeurs pour le camp national. Moi, je me souviens de ma mère qui pousse des cris de joie quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. Il avait fait 16% de mémoire à l'époque. On est aujourd'hui donné au double dans toutes les enquêtes d'opinion au premier tour de l'élection. Donc, c'est le moment de croire. Maintenant, la victoire n'est pas certaine. Je considère qu'aujourd'hui, vous le disiez, beaucoup de scénarios de sondages donnent une victoire au camp national. L'élection est encore loin. Moi, je considère, parce que c'est mon tempérament, qu'on est aujourd'hui à 50-50. Et que donc, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Et que donc, il faut rassembler le plus largement possible. Marion Maréchal a fait le choix de soutenir, de s'agréger à cette coalition du camp national, de soutenir le candidat ou la candidate du camp national. Effectivement, au moment où on se parle, les juges n'ont pas encore... Mais ça aura été décidé. Gage aussi, bien sûr, à ce candidat ou cette candidate de vouloir rassembler, de donner de la place, de comprendre que quand on a une vocation majoritaire aujourd'hui, hein, parce qu'il s'agit pas juste de gagner la présidentielle, il faut gagner les élections législatives derrière, que donc faut rassembler le plus largement possible les Français et s'entourer et aller créer cette équipe qui va amener à la victoire. Donc oui, bien sûr, on peut gagner, mais je vais peut-être vous surprendre, mais si on gagne pas, c'est pas fini. Et si on gagne, c'est pas fini non plus. Vous voyez, si on gagne, les défis sont devant nous et il s'agira là de ne pas décevoir parce que l'espoir, c'est 5 décennies d'espoir, hein, 6 quasiment des Français qui reposent aujourd'hui sur nous. Je viens d'une ville où beaucoup très tôt ont mis leur espoir dans le camp national. Cela faut pas les décevoir, faut pas décevoir tous les Français qui votent pour un vrai changement. Et ça sera un enjeu majeur. Donc c'est une responsabilité énorme. D'abord rassembler, aller chercher la victoire, et puis derrière surtout ce qu'on fait de la victoire. Ne pas décevoir. On entre aujourd'hui dans cette phase-là. C'est une chance immense. Et moi je pense aux jeunes militants là, ceux qui sont dans l'action aujourd'hui. Vous allez voir notre camp gagner. Peut-être ça sera pas cette fois-ci. Ça sera peut-être la suivante. En tout cas, il va se passer des choses. Il y a un mouvement historique qui est à l'œuvre à l'échelle de notre continent. Vous le savez, nous, on travaille étroitement avec Giorgia Meloni, nos alliés italiens, mais aussi au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens, dont font partie nos députés européens, et le parti lié dont Marion est la vice-présidente à l'échelle continentale. C'est des 6 pays où nos alliés participent au gouvernement ou dirigent les gouvernements. Il se passe quelque chose. Et c'est la France qui est attendue là-dedans, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est la France qui est attendue aujourd'hui par nos alliés européens, donc on peut gagner. Je dis on est à 50-50 parce que je veux surtout pas qu'on se dise c'est fait. Je veux que chacun se dise, ah là, ça c'est ma responsabilité, que ça fasse 50+1, c'est ma responsabilité, c'est la vôtre, c'est la mienne. Il faut se battre.
On a 2 minutes 30, alors évidemment, vous n'allez pas trahir de secret sur Radio Courtoisie, Philippe Vardon-Rébeau, mais Quelle doit être pour vous, sinon la place, parce que ce serait pas bien dit, mais la contribution de Marion Maréchal à ce combat, et à quoi est-ce qu'elle doit servir pour que nous puissions gagner?
Bah, je pense que...
Merci de cette question.
Je pense que Marion a d'abord une popularité réelle auprès des Français, avec des traits d'image très forts, sur le notamment sur elle est considérée comme solide, sérieuse, la rigueur, etc. J'étais son directeur de campagne lors des dernières élections européennes. On a sondé aussi. On a voilà. Hein, vous construisez aussi aujourd'hui votre matière, votre communication, votre stratégie en fonction des retours que vous avez. Même si c'est pas ça qui doit forger les idées, mais il faut aussi aller chercher des réponses. Parfois c'est une aide à la décision aussi, et c'est des traits qui sont très marquants. Elle a une capacité de rassemblement. C'est vrai que Marion a un lien affectif, un lien j'irais quasiment filial avec le ce que j'appelle moi le peuple frontiste, hein, le peuple RN, avec ces électeurs là on l'a vu lors de la tournée pour présenter son livre. C'était très très présent, et avec ces gens qui existent aujourd'hui, hein, qui disent mais moi j'ai toujours voté Le Pen, et quand ils disent ça, prennent dans un coin comme chez moi ou en Provence Alpes-Côte d'Azur en général, c'est-à-dire qu'ils ont voté Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal, et donc ils se sentent appartenir, hein. C'est pour ça que je parle d'un peuple, hein, on dit le peuple de gauche, etc. Il y a un peuple frontiste, hein, il y a un peuple à la flamme bleu-blanc-rouge, et ils la voient comme une de celles qu'il incarne, comme Marine Le Pen, comme Jordan Bardella aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une question de filiation biologique, mais elle a ce lien affectif très très fort. D'ailleurs, j'en avais plus autant conscience, parce que bah, elle s'est éloignée, elle a fait d'autres choses, etc. J'en avais plus autant conscience, ça avait été très vrai, on s'en souvient peut-être, mais lors de la messe hommage pour son grand-père, ou son discours, enfin il y avait une ovation incroyable, et au-delà de cet aspect-là, juste on voyait le rapport que les gens avaient avec elle quand elle est arrivée. On a presque l'impression je sais pas comment dire, qu'elle revenait d'un exil à l'étranger. C'était assez frappant. Moi, je l'avais vraiment lu comme ça à ce moment-là. Donc, il y a ce lien. Et puis, il y a bien sûr aussi la popularité qu'elle a auprès de tout un électorat de droite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont évidemment chez Éric Zemmour, mais aussi qui pourraient envisager de voter pour Bruno Retailleau, qui sont extrêmement sensibles à la personnalité de Marion, aux combats qui sont les siens, aux idées qu'elle défend et de la façon dont elle les défend. Donc, c'est évidemment, pour le candidat ou la candidate du camp national, un atout que le soutien de Marion Maréchal.
Procurez-vous, il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard, aux éditions Idées de Philippe Vardon-Rebdebo. Merci à la technique, et à la semaine prochaine pour une rediffusion du Libre Journal des débats de Radio Courtoisie.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 3 juillet 2026 et diffusée pour la première fois le mercredi 8 juillet 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.